des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
On est de retour au guide de l'auto et c'est l'heure de répondre aux nombreuses questions qu'on reçoit chaque semaine de la part des lecteurs et auditeurs. Germain, je te laisse commencer avec une première question.
Oui, donc on a Philippe qui nous dit envisager l'achat d'un Hyundai Kona 2022. Je te demande si c'est intéressant d'opter pour le rouage intégral. Le véhicule ne circulera jamais hors route et il mentionne être habitué d'acheter d'excellents pneus d'hiver.
Bien, ma réponse à ça, moi, rapidement, c'est si vous n'en ressentez pas le besoin, la version à roue motrice avant peut bien faire le travail.
Absolument.
On répète souvent.
C'est un besoin qu'on s'est créé au fil du temps.
Bien, je veux dire, ça aide les compétences hivernales, mais on répète souvent aux gens qu'entre un rouage intégral et des bons pneus d'hiver, commencez avec des bons pneus d'hiver. Le rouage intégral est un bon plus, mais si vous n'avez pas à vous aventurer dans des routes mal déneigées, c'est vraiment pas une nécessité. Ceci dit, soyez conscient que vous allez payer le véhicule un peu moins cher. Il y a de fortes chances quand même que sa valeur de revente soit un peu plus basse aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui recherchent le rouage intégral.
Au moment de la revente, ça va être désavantage.
Ça va paraître
un désavantage et c'est ça. Donc, ça pourra peut-être plus paraître à ce moment-là, mais encore là, il ne faut pas acheter un véhicule neuf pour celui qui va l'acheter d'occasion.
Non, achetez le véhicule selon vos besoins. Vous allez payer un peu moins cher pour une version à roue motrice avant, payer un petit peu moins en essence aussi, même si la différence n'est pas énorme. Mais oui, moi, je vous dirais, si vous ne sentez pas le besoin d'avoir un rouage intégral, il n'y a aucun mal à choisir une version à deux roues motrices. Deuxième question qui nous vient de la part de Cathy, qui veut acheter un Jeep Cherokee flambant neuf. Elle hésite entre une version North et Altitude. Laquelle choisir, Germain, mais laquelle choisir?
Oui, grande question. En fait, c'est assez simple. La version North, elle va être livrée de série avec le moteur à 4 cylindres de 2,4 litres, donc le plus petit des moteurs finalement, qui n'est peut-être pas le moteur que moi je choisirais. On peut opter pour le V6 Pentastar de 3,2 litres, donc pas le 3,6 litres qu'on retrouve dans une panoplie d'autres véhicules chez Stellantis, mais bien le 3,2 litres. Mais rendu là, si on paye le moteur optionnel, on est aussi bien d'aller vers la version Altitude qui, elle, est livrée avec le moteur V6. Donc, rendu là, aussi bien, effectivement, de faire le saut vers la version Altitude qui va être un petit peu plus équipée aussi.
Surtout si, là, c'est pas mentionné, mais si vous devez remorquer, c'est absolument vraiment la motorisation à choisir. D'ailleurs,
c'est beaucoup plus souple aussi.
Ouais,
là,
le Cherokee, est-ce que c'est le seul maintenant VUS compact à continuer d'offrir un V6?
C'est une excellente question et j'aurais tendance à te répondre que oui.
Parce qu'il y avait l'Outlander aussi qui ne l'offre plus avec la nouvelle génération qui arrive en 2022.
Ça ressemble pas mal à ça, effectivement.
Sinon, écoutez, RAV4 CR-V, ça fait longtemps qu'on n'offre plus ça. Donc, puis le Ford Escape, on n'en parle même pas.
Là, on est rendu avec trois cylindres.
On est loin du V6.
Donc, c'est peut-être un VUS compact plus traditionnel dans son approche. Je trouve qu'un V6, c'est pas de l'exagération, loin de là, dans un véhicule comme ça. Et le rouage intégral du Jeep, on n'a même pas besoin d'en parler. Donc, plutôt que de prendre le moteur optionnel V6 dans une version North, je prendrais tout simplement, dès le début, une version Altitude.
Exact. Est-ce qu'on a une nouvelle question?
On a Sylvain qui nous dit avoir commandé un Ford Escape hybride rechargeable, donc version PHEV. Il nous mentionne que ça commence à être long et se demande à quel moment arrivera-t-il?
Bon. Là, on a une réponse officielle et une réponse officieuse pour vous. Ça fait quelques fois maintenant que Ford repousse la date d'arrivée du Ford Escape PHEV. La date qui est avancée maintenant, on nous dit que ça va arriver pour le mois d'août cet été, donc août 2021. On aimerait ça les croire, mais ça fait plusieurs fois qu'on nous donne une date et que finalement, c'est pas respecté. On a d'abord blâmé la COVID, ensuite ça a été les problèmes de... En fait, la COVID, il y a eu des problèmes avec la batterie aussi, des problèmes de fiabilité, beaucoup avec cette batterie-là, mais des risques d'explosion, carrément.
Oui, ce qui est quand même assez majeur.
Ça peut entrer dans fiabilité, je pense. Puis là, maintenant, on blâme la crise des... en fait, la pénurie de microprocesseurs qui frappe toute l'industrie automobile. Ce sont toutes des raisons valables, mais ça commence à faire beaucoup de problèmes avec un véhicule qu'on a conduit au guide de l'auto il y a un an déjà, qui n'est pas arrivé encore chez les concessionnaires.
Ça commence vraiment à être long. Antoine et moi, on a eu la chance d'en discuter, de spéculer au sujet de l'Escape PHEV et de l'Escape tout court, parce qu'il ne se vend pas autant que c'était espéré, l'Escape régulier. Non. Donc, est-ce qu'il pourrait ne jamais arriver? L'Escape PHEV?
Ben moi, j'espère que ce sera pas le cas.
Est-ce qu'on n'arrivera pas directement avec un Bronco Sport PHEV?
Ben rendu là, c'est la même plateforme. Donc le Bronco Sport PHEV est très plausible.
Oui, mais est-ce qu'on laisserait tomber tout simplement la version
PHEV?
On pourrait,
mais je pense que ce serait de la mauvaise presse pour Ford. Surtout qu'il y a beaucoup de clients qui ont déjà commandé leur véhicule, comme Sylvain ici, qui attend son véhicule. Puis pour l'avoir conduit, l'Escape PHEV, Germain, franchement, c'est un bon produit.
Oui.
J'ai été impressionné par le comportement de ce véhicule-là. Son autonomie électrique n'est pas aussi bonne que celle du RAV4 Prime. Par contre, la consommation d'essence quand la batterie est à vide est meilleure.
Oui, parce que c'est un véhicule qui est traction, finalement.
Ça, c'est la grosse déception. Il n'y a pas de 4 roues motrices.
Non, mais ça fait justement qu'il consomme moins d'essence une fois qu'il roule en mode hybride et non en mode électrique. Donc,
c'est vrai.
C'est à considérer, là. Mais effectivement, ça commence à être long.
Oui, puis si rendu au mois d'août, Ford nous parle d'un autre délai, là, on va pouvoir commencer à spéculer sur l'avenir réel de ce modèle-là. Ceci dit, Sylvain, mais si ça finit par pas arriver, mais sachez qu'il y a le Toyota RAV4 Prime qui existe, il y a l'Outlander PHEV qui, bon, moi j'attendrai parce qu'il y a une nouvelle génération qui va arriver. Il y a une version PHEV aussi du Hyundai Tucson qui s'en vient. Donc, il y a d'autres choix ailleurs dans l'industrie qui peuvent s'avérer intéressants.
Oui, on se rappelle, il n'y a pas si longtemps, l'Outlander PHEV était seul au monde. Son arrivée, il était seul. Mais bon, ce n'est plus le cas et ça va tendre à l'être encore de moins en moins.
Une petite dernière, Germain, avant qu'on ferme les livres pour la semaine. C'est Marie-André qui nous écrit, qui possède une Hyundai Sonata 2015 dont elle est très satisfaite. Elle pense la remplacer pour une Sonata 2021, donc le même modèle, mais flambant neuf. Elle veut avoir notre avis là-dessus.
Bien, premièrement, si elle est très satisfaite de sa Sonata 2015, je ne connais pas l'utilisation qu'elle en fait, mais si c'est une voiture qui est encore propre, qui a peu de kilométrage, qui ne lui a pas causé trop d'ennuis, trop de pépins, j'ai envie de lui demander pourquoi ne pas la garder, finalement. Bon, évidemment, on peut être par la Sonata qui est moins anonyme que par le passé.
Qui a changé beaucoup en 2015 et 2021, c'est deux véhicules
différents. C'est très différent, donc je la comprends tout à fait d'être attirée par la nouvelle Sonata. Cela dit, effectivement, si elle n'en a pas besoin, bon, c'est une chose, mais si elle veut changer, c'est tout à fait son droit. La gamme est très étendue pour la Sonata. Bon, on en a parlé un petit peu plus tôt en effleurant le sujet de l'hybride, qui, moi, je le répète, m'a beaucoup plu. Mais, encore une fois, c'est une question de prix. Elle est beaucoup trop chère par rapport aux versions à essence parce que c'est seulement une version plus cossue, plus haut de gamme qu'on propose avec la mécanique hybride. Sinon, ce qui est assez, on va le mettre entre guillemets, rigolo, la version de base qui est animée par un moteur 4 cylindres 2.5 litres, ben, elle est plus performante que les versions supérieures à moteur optionnel qui ont le moteur 1.6 turbo compressé.
C'est spécial, ça.
Donc, c'est une stratégie que je m'explique assez mal.
Ouais.
C'est très, très particulier. Donc, je ne vois pas pourquoi on a pris cette tangente-là chez Hyundai. Donc, ça fait un choix de 3 motorisations, au
final. Mais toujours pas de rouage intégral avec
Mais toujours pas de rouage intégral. Et c'est là où je m'en allais. Parce que, bon, si Marie-André recherche cette caractéristique-là, qui n'était évidemment pas offerte en 2015 lorsqu'elle a acheté sa Sonata, mais qui n'est toujours pas offerte en 2021, mais qui pourrait être une caractéristique attrayante, ben, il faut savoir que la Kia K5, donc qui remplace l'Optima, elle propose le rouage intégral. Grosso modo, là, c'est la même voiture que la Sonata. Bon, le moteur de base n'est pas le même. On embarque directement avec... avec le moteur 1.6 turbo, mais sinon, c'est ça. C'est une voiture assez convaincante. Moi, j'ai trouvé qu'il manquait de dégagement pour la tête, mais sinon, pour le reste, ça peut être une alternative bien intéressante, justement, parce qu'elle a les quatre roues motrices, soit deux de plus que la Sonata.
Exact, mais effectivement, comme tu le dis, pourquoi changer un véhicule dont on est satisfait 2015? C'est pas si vieux.
Non.
Bon, évidemment, il y a peut-être des informations qu'on sait pas, mais votre véhicule est encore bon pour plusieurs années. Selon toute logique. Donc, pourquoi le changer?
Oui.
Germain, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de co-animer avec toi. C'est Antoine Joubert qui sera de retour dès la semaine prochaine.
Merci, Fred. Tu as été un excellent remplaçant d'Antoine.
Toujours un plaisir. Passez une excellente semaine. Et Germain et Antoine vous retrouvent pour une nouvelle édition dès la semaine prochaine.